Josette Chiche-Portiche et l'Indochine, un effet papillon.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Josette Chiche-Portiche a vraiment un destin romanesque. Une naissance à Dakar, par hasard, une enfance en Centrafrique, une maîtrise d'anglais préparée à Londres. Et voilà qu'il ne dit rien encore dans cette rediffusion de ce qui l'a mené sur les routes du roman familial. Un premier roman intitulé « 6 ans et 200 jours » où elle raconte comment ses parents, un militaire français et une eurasienne, se sont rencontrés en captivité alors qu'ils étaient prisonniers du Viet Minh de 1947 à 1953. 6 ans de captivité dans la jungle du Nord Annam qui prouve que choisir son camp en temps de guerre, c'est le dernier souci de l'amour. Mais 6 ans de captivité, au bout desquels naîtra un terrible secret resté caché pendant plus de 40 ans. Un secret de famille qui démarre dans cette jungle du Nord Annam en janvier 53 avec une jeune eurasienne, un bébé dans le dos.
Madeleine trébuche et ses pieds nus glissent sur la terre détrempée, entre les rizières éclairées par un pâle clair de lune. Dans son dos, Michel est brûlant de fièvre. Il laisse échapper, de temps à autre, un gémissement. Mais elle ne peut pas s'arrêter pour lui donner le sein. Elle l'a enveloppé dans un vieux kékouane élimé. Et même s'il ne doit pas peser plus de 3 kilos, elle peine à marcher. Et Anne qui insiste, qui ne la lâche pas. Il a ordonné aux Bodoy, les soldats, de continuer d'avancer avec les autres prisonniers. Déjà, la colonne disparaît le long de la diguette. « Reste avec moi et prends la nationalité vietnamienne, » dit-il pour la 10e fois. « Dès que j'ai vu ta photo dans le bulletin du comité de paix et de rapatriement, j'ai compris que je t'aimais toujours. Madeleine, tu n'es pas française, tu t'es leurrée, ouvre les yeux. Le Viet Minh a pris le pouvoir, il nous a rendu notre pays, ton pays. »
Bonjour Josette Chiche-Portiche.
Bonjour.
Votre livre s'ouvre donc sur cette scène qui a eu lieu, a priori, en 1953. On verra si on est entre la fiction et la réalité, entre une jeune fille, donc votre mère, a priori, et Anne, un petit chef de gare annamite. Scène qui va rester comme un secret toute la vie de votre mère et qu'elle avouera à votre père peu avant de mourir. Est-ce qu'on peut savoir quel est ce secret?
C'est en fait... Bon, ça, c'est de la fiction quand même. Mon frère est toujours... Mon frère est effectivement né en captivité, mais bon, cette scène-là, je l'ai inventée. Je ne sais pas d'où elle m'est venue, mais bon, c'est...
Mais elle a été inspirée par un véritable secret de famille ou pas?
Non. C'est juste...
Fiction. Alors, voilà. C'est quoi ce secret que vous auriez imaginé?
Je ne sais pas. J'avais besoin de cet enfant que l'on prend à Madeleine pour pouvoir faire un retour vers le pays, pour qu'il y ait un lien entre la France et le Vietnam 50 ans après la captivité.
Un enfant caché qui serait le fruit de cet amour.
Exactement, oui. Je ne voulais, en tout cas, ce qui était certain, c'est que je ne voulais pas raconter, même si l'histoire de mes parents est en soi assez romanesque, je voulais y mettre une petite touche personnelle.
Alors, cette histoire inventée en partie, devenue roman peut-être après d'ailleurs un voyage, pèlerinage au Vietnam qu'on va raconter, vous permet, dites-vous, en quatrième de couve quasiment, de ne plus être captive de leur captivité.
Exactement. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, très vite, je racontais l'histoire de mes parents. Très vite. Même si on ne parlait pas de nos origines et tout, j'éprouvais le besoin de raconter leur histoire parce que c'était pour moi une histoire qui, d'une certaine façon, m'a un peu pesée. Quand je comparais ma vie à la leur, évidemment que ma vie était... très ordinaire, très... du coup, écrire ce livre, toute la dimension fictionnelle que j'ai rajoutée m'a permis de m'approprier leur histoire. Maintenant, je raconte mon livre et je ne raconte plus leur histoire, même si mon livre, c'est leur histoire.
Donc d'exister à côté d'eux.
Exactement, oui. Même sur eux, je pense, puisque je suis au-dessus.
Et vous faites le geste en plus, hein. Surplomber l'histoire de vos parents. On va voir comment la traductrice que vous êtes a réussi justement à traduire le ressenti familial. On y retourne de façon en sol majeur avec une première question.
Đối với ông hay bà, quê hương là đồng nghĩa với chữ gì?
Pour vous, le pays d'origine est synonyme de quel mot?
quand on dit pays d'origine, pour l'instant, on pense Vietnam en ce qui vous concerne.
D'accord. Hein,
Joseph.
Ok, vous, vous pensez Vietnam.
Vous pensez quoi?
Je pense nulle part. Oui, je pense. J'ai le souvenir que quand je regarde le planisphère comme ça, sur les parois.
J'ai le souvenir ici, oui, dans notre studio.
Oui. J'ai le souvenir, je me revois petite devant le planisphère en disant, ok, moi je suis née là, à Dakar. Maman est née là, au Vietnam. Papa est né là, en Algérie. Et pour moi, c'était trop, quoi. C'était donc pays d'origine, oui, c'est le Vietnam, mais en même temps, mon père est né en Algérie, mais il a quitté l'Algérie quand il avait 10 ans. Donc, c'est pas l'Algérie, mais c'est toute l'histoire qu'il y a autour des... Puisque mon père est juif d'Algérie, toute l'histoire qu'il y a autour des juifs. Et c'est, comment dire, entre les deux, mon cœur balance, quoi. Donc, c'est,
En même temps, c'est le Vietnam qui a l'air d'être pesant, si j'ose dire.
C'est pas le Vietnam, c'est leur histoire au Vietnam qui est pesante.
Alors, la première fois que vous y êtes allée, dans ce Vietnam, Josette Chiche-Portiche, c'est apparemment en 94.
Exactement, oui.
Avec votre mari journaliste, mais pas seulement.
En fait, en 94, mes parents appartenaient à une association qui a été fondée, qui s'appelle l'ANAPI, qui a organisé ce voyage. C'était tourisme et retour sur les lieux de détention. Donc, c'était les anciens prisonniers du Viet Minh qui allaient pour la première fois, 50 ans après, au Vietnam. Le pays venait de s'ouvrir. Et moi, j'ai absolument tenu à accompagner mes parents parce que je voulais découvrir le pays de ma mère. Donc, je dis le pays de ma mère, mais elle... Enfin, c'est très curieux, même dans sa tête à elle. Je crois que c'était très... Elle disait Vietnam, en même temps, elle disait « je suis française ». Donc, en fait, c'est un peu... Je crois que c'est très compliqué. Enfin, bref, on les a accompagnés. Mon mari, en tant que journaliste, avait proposé de faire un reportage, de les interviewer pendant tout le voyage. Et ça a été assez prodigieux parce qu'en fait... Tous ces gens avaient, je crois que mes parents étaient les plus jeunes, ils devaient avoir genre 70 ans. Et quand on est arrivé à Hanoï, il faisait très chaud, moi je n'ai pas supporté la chaleur, j'ai eu la tourista. Et eux, d'un seul coup, ils avaient 20 ans. Et ils avaient une pêche incroyable et tout, ils prenaient des pousses-pousses, des cyclos, ils allaient au marché, ils mangeaient dans la rue et tout. Je les observais et j'étais un peu estomaquée, quoi.
Alors, le but en fait de ce voyage pour eux, c'était quoi?
C'était de retourner sur leur lieu de détention. Donc, on a fait le voyage du nord vers Vienne, dans le centre de l'ANAM qu'ils ont été faits prisonniers, mais ils n'ont rien retrouvé. Il y avait des militaires et puis il y avait des civils.
Dans ce camp de détention, hein.
Oui. Mm-hmm. On a parlé de ces camps en 89, je crois, avec l'affaire Boudarel.
C'était quoi l'affaire Boudarel?
Monsieur Boudarel était un prof de philo français communiste. Donc. Et il est parti, il s'est engagé. Il était à la tête d'un camp qui s'appelait, je crois, le camp numéro 113. Et il était vraiment pire que le pire des tortionnaires. Et quand il est revenu en France, il enseignait à la Sorbonne. Et des anciens prisonniers l'ont reconnu. Et donc, on voulut faire un procès. Mais il est mort avant le procès.
Alors, dans le retour des oubliés du Nord Annam, nos confrères de France Culture ont diffusé des extraits de ce voyage, organisé donc par cette association d'anciens prisonniers déportés d'Indochine. Et votre mari, Josette, a tendu le micro notamment à votre mère, qui s'appelle Jeanne dans la vie. Et elle raconte, un moment de cette détention, elle raconte que les chefs de camp qui leur menaient la vie dure ont un jour été remplacés.
Ils en ont mis d'autres qui étaient, pour ainsi dire, normaux. C'est-à-dire, ils nous gardaient, ils nous donnaient plus à manger, ils nous faisaient un peu la... Comment on appelle ça? La propagande. Une propagande, mais sans quand même nous obliger. Mais j'étais très correct, très poli. Ils voulaient qu'on participe au camp, c'est-à-dire, on faisait des soirées théâtrales, on apprenait à lire aux enfants, on occupait nos journées, un peu plus. Parce qu'avant, on n'avait rien à faire. Et le temps est très long quand on n'a rien à faire. Pour les fêtes, on essayait d'organiser quelque chose entre nous. On faisait semblant de fêter Noël, c'est-à-dire on pouvait juste chanter ensemble. Et puis, une fois, j'ai même essayé de faire une crèche avec des pots de pamplemousse. Alors, c'était plus ou moins bien, mais c'était plutôt l'imagination qui jouait. Et je crois que les hommes aussi se faisaient des menus mentalement. Et puis manger en esprit, parce que c'est tout ce qu'on pouvait faire. Et puis on regardait le ciel, parce que là-bas, à Noël, il y a toujours un très beau ciel bien étoilé. Et on se disait, moi-même, je me disais, quand est-ce que je pourrais sortir de ce trou? Parce que je ne voyais pas comment partir de cet endroit-là, autre que par le ciel. Et parce que les années se répétaient et toujours on attendait. On attendait notre libération et ça, quand même, ça durait très longtemps quand même.
Alors c'est drôle, hein, Josette Chiche-Portiche, d'entendre pour un sol majeur votre mère. Parce qu'effectivement, il y a une dimension comme ça de pesanteur autour de cette détention qui va durer très longtemps. Mais il y a aussi l'aspect politique, si j'ose dire, de cette détention. Et on l'entend chercher le mot propagande.
Oui.
Et puis à un autre moment d'interview, elle se tourne vers votre père et elle cherche aussi un autre mot qui serait le mot insurrection.
Oui, oui.
C'est très étonnant, non ?
Bon, ma mère était quelqu'un qui parlait peu. Je crois que c'était l'ambiguïté de son existence même fait qu'elle est à la fois française, mais je veux dire physiquement très typée. Donc parler d'insurrection ou de propagande, c'était quand même son pays, le Vietnam, enfin la Indochine à l'époque, c'était son pays, elle y est née, elle y avait ses racines. Donc je pense que dans sa tête à elle, c'était un peu confus.
Est-ce que justement, avant ce voyage, vos parents vous avaient raconté en détail ces années de captivité ?
Oui, il racontait essentiellement des choses plutôt drôles, parce qu'il y a eu des moments drôles.
Mais c'est marrant, votre père se parle souvent de très bons souvenirs.
Oui, oui, oui. Je pense que c'était plutôt pour nous protéger, mes frères et moi. Parce que quand j'ai commencé à écrire mon livre, j'ai lu énormément de récits de militaires. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des scènes absolument atroces quand les corps montaient à la surface, parce qu'il y avait des pluies et tout, des diluviennes, et que les corps remontaient à la surface. Voilà, mes parents n'ont jamais raconté ça. Si, mon père racontait qu'il connaissait le chant de la République du Vietnam par cœur, en vietnamien, il était capable de l'entonner, de la chanter et tout.
Alors il y a un moment de témoignage chez votre père, on va écouter parce qu'il est à la fois surréaliste et troublant.
À un moment donné, on était dans un camp qui n'était pas justement numéroté parce que c'était un tombeau, une sépulture vraiment majestueuse sur les bords du Songjiang. C'est une grosse bâtisse avec des colonnes, une véranda circulaire. Et puis au milieu, il y avait une grande pièce. Et donc, on était tous logés là. Et il y avait un grand jardin où il y avait des rosiers, là, des maigres rosiers rachitiques, là, qui donnaient quand même quelques roses. Alors, il y avait mes copains, Laurent. Lui, il mangeait les roses au fur et à mesure qu'elles venaient. Il mangeait les roses. Alors, un beau matin, le lieutenant Anne, le sycophante, là, en question, rapport. J'ai constaté tristement que certains parmi vous, profitant de la promenade sous la lune, s'apprivoisaient les roses à des fins égoïstes. Rapport de monsieur le lieutenant Anne. C'était sa spécialité. C'est un ancien chef de gare qui s'est retrouvé officier dans l'armée du Viet Minh.
Mais en écoutant mon père parler, là, je trouve ça absolument hallucinant. Enfin, pas une seule fois, ils se sont plaints. Mais ma mère l'a dit dans l'émission, parce que je pense que le micro que lui présentait mon mari l'a un petit peu stressé, quand elle a parlé d'avoir faim. Quand elle a dit qu'il mangeait des pots de pamplemousse, là je l'ai découvert en écoutant l'émission. Quand on était petit, jamais il disait ça. Quoi. Il disait, bon, on mangeait pas beaucoup. Mais pas beaucoup, une peau de pamplemousse, c'est pas la même chose. Quoi.
Alors il faut dire que ces anciens prisonniers de Vinh au Vietnam donc, ont aujourd'hui un statut qui est proche de celui des survivants des camps nazis.
Tout à fait, oui. Oui, ça c'est une revendication qui a été faite par le président de cette association. Bon, ils ont eu des pensions. Et en fait, toutes leurs maladies, parce que c'est pas mal de séquelles, ont été prises en charge. Mon père, par exemple, il a perdu une partie de sa vision parce qu'il avait coupé un arbre qui était malade. Donc toute sa vie, il avait extrêmement de mal à voir. Et aujourd'hui, quand des journalistes reviennent de captivité et tout, ils sont pris en charge par des psys, des choses comme ça et tout. Et là, à l'époque, ben non, quoi, ils étaient lâchés dans la nature. Et puis,
qu'est-ce que ce voyage pèlerinage a changé pour vous, Josette Chiche-Portiche ?
Ben déjà, j'ai découvert le Vietnam. J'avais l'impression d'être tout le temps, protégée d'une certaine façon. En fait, en 94, par exemple, les hôtels n'étaient pas très...
aux normes occidentales.
Exactement. Donc, il y avait des souris, des rats et tout. Et je suis assez phobique. Mais là, je ne sais pas, j'étais touchée par la grâce et je me disais, c'est ma grand-mère qui me protège. Il y avait une espèce d'un lien. C'est l'idée qui m'est venue, l'image qui m'est venue, un lien entre ma grand-mère, que je n'ai jamais connue, et qui me protégeait. Donc, il y avait ça. Donc, il y avait cette espèce de j'en fais partie. Enfin, je suis. Mais en même temps, un rejet de la part des Vietnamiens, parce que j'avais appris à dire Fap Lai. Fap Lai, ça veut dire moitié français. Et dans les boutiques, dans les restaurants, les gens me regardaient avec des grands yeux en disant pas du tout, quoi. Enfin, parce que je ne suis pas du tout typée vietnamienne, donc ils ne comprenaient pas. Mais pour moi, il y avait... Je revendiquais une petite appartenance avec ce pays. Et puis surtout de voir ma mère, qui s'est mise à... Bon, elle parlait vietnamien quand j'étais petite, mais après, elle ne parlait plus. Mais là, d'un seul coup, elle était chez elle. Elle parlait plus qu'en France, par exemple.
Elle était entière.
Tout voilà.
À oui, tout à fait. Oui, oui. Cette matière, donc, elle a eu, on pourrait dire, un effet papillon sur vous. Et ça va devenir donc ce roman, On s'en rapproche et on brûle, avec cette Madame Papillon, cette Madame Butterfly, ce cœur qui bat dans les bras de son officier américain. Je raconte un tout petit peu l'opéra de Puccini. Pourquoi vous aviez envie d'entendre un extrait de cet opéra ?
Ma mère, qui ne connaissait pas grand-chose à l'opéra, adorait cet opéra. Et à la fin de sa vie, elle l'écoutait quasiment tout le temps. Mais c'est curieux, je n'ai pas du tout fait le lien... Quand je cherchais donc des morceaux de musique, d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est évident, c'est son histoire. Mais c'est fou de ne pas y avoir pensé de son vivant.
Madame Butterfly qui nous trouble un peu dans ce studio en sol majeur et pour s'introduire en kimono avec notre invitée Josette Chiche-Portiche dans une guerre. Et alors là, il faut faire une petite précision dans la guerre d'Indochine qui n'a rien à voir avec la guerre du Vietnam.
Absolument, oui, la guerre d'Indochine, c'est contre les Français. Et la guerre du Vietnam, c'est contre les Américains.
Petit rappel historique, donc pour soi-disant libérer l'Indochine du coup de force japonais, la France envoie en 1945 un corps expéditionnaire, où sera intégré d'ailleurs votre père, Josette, cependant que s'organise le Viet Minh, emmené par Ho Chi Minh.
Nous voulons tous l'indépendance de notre pays. Le mot Vietnam, c'est l'ancien nom de notre pays. Mais Viet Minh, c'est un nom apaisé de Vietnam Độc Lập Đồng Minh, c'est-à-dire la Ligue pour l'indépendance du Vietnam.
19 décembre 1946, jour de l'insurrection du Viet Minh, votre père s'en souvient, au micro de France Culture, il raconte.
On était là en délégation, jusqu'au jour où il y a eu la rébellion complète du Viet Minh, donc le 19 décembre 1946, où on s'est fait coincer là, parce qu'on était pratiquement pas armés, hein. On avait les mousquetons de la guerre 14-18, là, on n'avait rien, quoi. Donc on n'a pas pu se défendre, on a tiré un peu dans la nuit, dans le noir, sans rien voir, puis quand le matin s'est levé, ben on était entouré de Viet et partout, quoi. Et partout.
M comme mère, patrie.
Les Viet, il y en avait partout, dit votre père. Et alors, à la manière dont vous l'avez croqué dans votre roman est assez proche, je pense, de ce qu'il pouvait être dans la réalité. Pour quelle raison il choisit de partir en Indochine ?
C'est une question que je lui ai posée parce que mon père revenait de camp de concentration. Je suis un peu gênée d'en parler, j'en parle dans mon roman. Quand j'ai demandé à mon père pourquoi il était parti justement après avoir passé 2 ans en Pologne, il a un peu esquivé la question et après il m'a dit « de toute façon, tout le monde partait ». Et dans l'immeuble où j'habitais, il y avait des affiches et tout. Et je crois qu'ils voulaient mettre de la distance. Et après, quand ils sont revenus en France et tout, on a vécu en Afrique. Je me dis, mais ça aussi, c'est pourquoi il a voulu partir en Afrique plusieurs fois et tout. C'était, je crois, mettre de la distance. Pareil, lui aussi, il avait cette ambiguïté. Tous les deux ont cette ambiguïté. Parce que mon père était français, puisque les Juifs d'Algérie sont français avec le décret Crémieux. Mais la France, à un moment, il a perdu sa nationalité française pendant l'occupation. Donc ça, c'est des choses qui marquent à vie, quoi.
Et il a perdu une partie de sa famille dans les camps de concentration, oui, à Auschwitz.
À Dachau. Mais chez lui, c'était... Et puis après, il a eu cette phrase qui était absolument adorable en disant, tu sais, quand de 17 ans à 28 ans, quand t'es dans des camps, ça fait beaucoup pour le même homme. Et j'ai préféré parler de la captivité où j'ai rencontré ta mère. Voilà.
Donc, un survivant qui décide de partir très très loin de ouais, ces terres
mettre de la distance,
traumatisantes, on va dire, oui, l'Indochine. Donc,
oui, mais paradoxalement, le camp de concentration était libéré par des Russes, communistes, donc ils s'engageaient pour combattre les communistes, il y a un truc qui ne va pas. Mais comme je le dis dans mon roman, je crois qu'il n'avait pas du tout de conscience politique à ce moment-là. Il était, je crois, trop, d'abord peut-être trop jeune, et puis trop chamboulé dans sa vie, quoi.
Donc Simon, vous l'avez appelé Simon, oui, dans votre roman. C'est donc un militaire français prisonnier avec des colons français dans ce camp. Et là, c'est l'occasion de découvrir le casting de votre roman. On va dire un mot de cette chère Madame Barouin qui serait votre grand-mère.
Voilà. Alors elle est exactement... par exemple, pour mon père, pour ma mère, donc, j'ai fait des petits...
ajustements.
Oui, des petits ajustements entre ma tante et ma mère et tout. Mais Madame Barouin, c'est vraiment ma grand-mère.
Alors qui est-elle ?
D'abord, ce n'est pas son vrai nom, c'était Dossé, son vrai nom. Madame Dossé, c'était une femme qui était chef d'entreprise, on dirait aujourd'hui. Une femme très dure. Par exemple, elle a eu 10 enfants qu'elle n'a pas élevés. C'était des tibas qui s'occupaient des enfants.
Les tibas, domestiques.
Oui, les domestiques, les petites bonnes, on va dire. Et c'était une femme d'affaires.
De quelle origine était-elle ?
Elle était annamite, pure. Elle était fille de mandarin. Elle a épousé mon grand-père, donc qui était lui moitié normand et moitié vietnamien. Parce qu'en fait, mes seules origines françaises, c'est cet arrière-grand-père normand qui était parti en Indochine à l'époque et qui a pris une concubine, puisque les mariages n'étaient pas autorisés. Et il a eu un enfant, mon grand-père. Mmh. Et puis ce Français est retourné en France.
Et donc, cette grand-mère était donc femme de colon ayant épousé la cause française.
Complètement. Elle revendiquait sa nationalité française. Elle disait « je suis française, mais en vietnamien ». Et elle ne s'est jamais habillée autrement qu'un hosai, qui est la tenue traditionnelle. Mais bon, elle avait cet attachement à la France parce qu'elle faisait tout simplement des affaires avec les Français.
Oui, c'était une histoire de revendication sociale.
Tout à fait.
Alors, à ses côtés, il y a donc Madeleine, qui est un peu votre mère, oui, et, qui incarne, je dirais, donc elle est de sang mêlé, comme on dit. Elle incarne cette ambivalence décolonisée aussi.
Tout à fait.
Mais sans morale, hein.
C'est... Oui, mais c'est toujours cette espèce d'ambiguïté, quoi. C'est que, bon, en plus, il faisait partie des colons. Elle fréquentait les expats et tout. Par exemple, ma mère me disait, il était hors de question que j'épouse un Vietnamien, parce que les Vietnamiens qu'elle devait fréquenter, bah, c'était plutôt les domestiques ou les paysans.
On comprend pourquoi elle était contre le Viet Minh, hein.
Oui, exactement.
Alors, vous racontez très très bien dans ce roman les conditions de détention entre ces militaires français prisonniers et ces colons français. Mmh. Et le fait que le Viet Minh, en fait, choisit de ne pas abattre les militaires français prisonniers, il préfère en faire des hommes nouveaux.
Oui, parce qu'en fait, il ne pouvait pas les tuer. Enfin, s'ils mouraient de faim, ils mouraient de faim, mais il ne pouvait pas les tuer, puisque l'idée, c'était de faire un échange avec des prisonniers vietnamiens. Donc,
Et leur en faire des hommes nouveaux, ça veut dire quoi?
Bah c'est justement la propagande, c'est peut-être les faire changer de regard sur l'impérialisme, sur le colonialisme, leur montrer la justesse de leur cause.
Alors, il se trouve que Simon, donc toujours votre père, un jour réplique un petit peu trop insolemment un Bodai, donc un garde du Viet Minh, et il se retrouve enfermé dans une cage en bambou, haute d'un mètre à peine. Ouais. Et isolé comme il l'est, il ne peut donc plus manger du tout. Ho Chi Minh tenant à ce que les repas soient pris collectivement, je vous cite.
Oui.
À la boule de riz prélevée quotidiennement dans sa ration, Madeleine ajoute un jour un morceau de viande qu'elle a miraculeusement trouvé au fond de son bol de soupe et un autre, une racine de manioc doux qu'elle a déterré après avoir découvert l'arbuste en allant chercher du petit bois. Tous les matins, pendant la corvée de bois, elle demandait aux gardes l'autorisation de s'éloigner à cause de diarrhées violentes dont elle souffrait, soi-disant, et elle filait creuser la terre à main nue. Quand elle a réussi à l'arracher, elle l'a cachée dans la poche de sa tunique, puis, à l'abri des regards, elle l'a épluchée avec les dents. Une fois la racine totalement débarrassée de sa peau, elle l'a immergée dans l'eau de cuisson du riz, sans rien dire aux femmes qui préparaient le repas avec elle. Puis elle a attendu qu'elles aient le dos tourné pour la sortir de l'eau bouillante, se mordant les lèvres sous la brûlure pour ne pas crier. Madeleine est incapable d'expliquer l'urgence de son comportement. Une seule chose lui importe, le Français ne doit pas mourir.
Je vous ai vu sourire en lisant cette phrase.
Oui.
Fiction ?
Oui. Enfin, quand je dis qu'elle est incapable d'expliquer l'urgence de son comportement, c'est ça, en fait. Je pense que, en tout cas, ma mère est incapable d'expliquer qui elle était vraiment, je crois. J'ai un souvenir où on était petits, on était une terrasse, on prenait une glace et une terrasse d'un café. Et il y a une femme qui est arrivée et qui a dit à ma mère, « Vous êtes très belle, vous venez d'où ?» Et ma mère a répondu, « Je suis vietnamienne. » Et après, ça a donné lieu à une dispute entre mes parents, où mon père disait « Tu n'es pas vietnamienne, tu es française ». Et c'est là, je crois que c'est là le nœud de leur personnalité. C'est, voilà, ils sont entre deux, en plus des pays ennemis. Bien sûr que le Vietnam a une raison de se battre pour l'indépendance du pays. Mais c'est compliqué. Enfin,
qu'est-ce qui est compliqué ?
Bah, oui, effectivement, de dire ma mère est vietnamienne, elle épouse l'ennemi. Mais elle n'est pas que vietnamienne, elle est aussi française.
Non, mais.
Enfin, c'est compliqué.
En même temps, non.
Mais je crois que c'est compliqué pour tous les gens.
C'est une sorte de Roméo et Juliette, en fait.
Oui,
ce qui se passe dans cette guerre du Viet Minh. C'est-à-dire que l'amour, au-delà de tout et du politique. Et ce qui est très joli, Josette Chiche-Portiche, c'est que dans ce théâtre de guerre où les conditions de séduction ne sont pas vraiment réunies, vous racontez, vous imaginez l'histoire d'amour de vos parents. Quel exercice de style, dites-moi.
Oui, c'était très compliqué. C'était très compliqué parce que dans la première version, j'étais très discrète. Et ensuite, mon éditrice m'a dit qu'il fallait quand même être un peu plus précise. Et là, j'étais terrifiée. Je ne pouvais absolument pas raconter la première nuit d'amour de mes parents. C'était pour moi impensable. Donc, après, j'ai essayé d'en faire quelque chose, quoi.
Oui, mais avant cette première nuit d'amour, première nuit de noces, il y a cette problématique très très intéressante, tomber amoureux en captivité.
Ouais. Mais je crois que ça leur est tombé dessus, en fait.
Est-ce que ce sont des héros pour vous, vos parents ?
Ah ouais. C'est ça qui était un peu pesant, d'ailleurs. parce que, oui, ils ont survécu à ces conditions de vie et puis ils ne se sont jamais plaints.
Mais vous pensez que cette captivité, vous l'avez forcément intégrée, intériorisée, elle
fait
partie de vous.
Je crois, oui, tout à fait. Cette espèce de reconnaissance. Je suis reconnaissante d'être en vie et je pense qu'eux-mêmes l'ont été et donc ils nous ont transmis cette façon de voir le monde.
Mais en même temps, cette cage que vous avez intégrée, il fallait l'ouvrir, il fallait que l'oiseau y sorte.
Oui, vous voulez dire le roman, d'où le roman ?
Ben oui.
Oui, parce que après ce voyage en 1994, j'avais eu l'idée d'écrire un scénario, parce que je trouvais que c'était vraiment, il y avait des paysages extraordinaires que je découvrais pour la première fois, les rizières, et tout ça, je trouvais magnifique. Je voyais des paysans, avec les femmes avec les chapeaux coniques qui marchaient le long des diguettes, et du coup, je voyais mes parents. Donc j'ai essayé d'écrire un scénario, et puis bon, je ne suis pas scénariste, et ça n'a rien donné, donc j'ai laissé tomber.
Mais vous avez quand même une écriture assez visuelle, je trouve.
Tout à fait.
Oui.
Parce que je vois des scènes, en fait.
Il y a un certain cinéma, certains réalisateurs que vous aurez un petit peu traversé l'esprit en écrivant ?
Oui, plusieurs. Moi, je suis assez fan de Truffaut, mais Truffaut n'a rien à voir avec ça, parce que c'est quand même beaucoup plus parisien, plus...
Vous nous rappelez dans ce roman une très belle citation de Paul Valéry disant « La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au service de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas ». Très belle phrase pour dire que comme dans toutes les guerres coloniales, rien n'est ni tout noir ni tout blanc. On le sait bien, il y a d'un côté les routes et les écoles, puis d'un autre côté l'occupation et l'asservissement de l'autre. Il y a les salopards, ceux qui déshumanisent ce qu'ils peuvent déshumaniser dans un camp. Et puis un jour, il y a un certain commandant Huang, je ne sais pas si on prononce bien comme ça, qui va gérer le camp de vos parents. C'est un cadre Viet Minh qui a beau combattre pour l'indépendance du Vietnam, il n'en est pas moins humain. Est-ce que vous avez enjolivé cette profil ?
Alors pas vraiment, non. Je suis tombée tout à fait par hasard sur un livre qui s'appelle « Le journal d'un combattant vietnamien catholique ». J'étais très contente de tomber sur ce livre parce que mes parents me disaient qu'il y avait quand même des gardes quelquefois qui étaient plus humains. Et donc, pour moi, c'était un trésor de découvrir ce journal.
Donc, c'est une vie humanisée qui va s'organiser dans ce camp pendant quelques temps, avec nourriture améliorée, promenade autorisée, gymnastique, paillotte intime pour le couple d'amoureux
tout à fait.
Qui se marie. Donc, la préparation du mariage dans cette jungle est aussi une scène de film. Je dis ça, je dis rien. Jusqu'à l'annonce de la grossesse.
Ouais.
De votre mère, qui fait souci au commandant du camp, parce qu'effectivement, cette grossesse peut déstabiliser toute l'organisation du camp. Mais Simon et Madeleine trouvent les mots au-delà du politique pour accueillir cette nouvelle vie, jusqu'à ce que Madeleine se fasse traiter par un militaire français d'anamite indigène, compagne d'un Européen et enceinte d'un enfant non reconnu par la loi.
Si votre pays n'était pas venu coloniser mon pays de naissance, commence Madeleine, oui, je serais une anamite. Non pas indigène, car le mot n'existerait pas, mais une anamite habitante de l'Anam. Mais parce que votre pays a annexé le territoire de mes ancêtres et y a envoyé des hommes qui se sont appropriés les terres et les femmes, les Congailles, comme vous dites, je suis française. Quant à l'enfant que j'attends, il n'est en rien illégitime. Je vous rappelle qu'étant donné les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, l'autorité, à savoir la loi, est représentée par le lieutenant Martin, votre supérieur, et par M. Beaujouan, lesquels ont tous deux reconnu notre union, à Simon et à moi.
Là hú là khoan cho trai bé bời. Là hú là khoan à lý khoan họ khoan này. Là hú là khoan đức họ là hô hời. Hô hời. Gái trai hô hùi. Hô hùi. Hết hùi hô khoan. Hô khoan à lý khoan họ khoan này. Là hú là khoan.
Alors, Josette Chiche-Portiche pour En Sol Majeur, est-ce que cette réponse, qui est presque une leçon d'histoire, est-ce que c'est vous l'auteur qui avez mis ces mots dans la bouche de votre mère ?
Oui. oui, tout à fait.
Vous auriez rêvé qu'elle dise ça ?
D'une certaine façon, oui. J'ai fait de Madeleine un personnage qui s'affirme. Plus la captivité avance, plus elle s'affirme, plus elle comprend des choses qui la déroutent totalement. Par exemple, le comportement de sa mère. Qui reste dans son monde à elle, elle fait partie des privilégiés et puis il y a les autres. Et ma mère n'était pas du tout quelqu'un qui se mettait en avant. Ma mère se réfugiait beaucoup dans la religion et j'aurais aimé qu'elle se présente plus comme étant justement une anamite mais devenue française.
Vous l'avez mis debout.
Oui, exactement, oui. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai éprouvé le besoin d'écrire. J'ai deux frères qui ne sont pas du tout dans le même état d'esprit que moi. Pour eux, il n'y a pas la même problématique. Bon, ils ont lu mon livre, enfin, il y en a un qui n'a pas pu le lire parce qu'il trouvait ça trop dur. Mais ils m'ont dit tous les deux, eh ben, c'est toi maintenant qui représente la famille.
Ça vous va ? Chef de famille, ça va ?
Oui, parce que des fois, j'ai envie de les secouer, j'ai envie de leur dire, mais vous vous rendez compte de ce qu'on est, de ce que ça représente. C'est toute l'histoire du monde. On est, enfin, à un moment, il y a quelqu'un m'avait dit cette phrase qui m'a fait bondir en disant que j'étais le fruit du colonialisme français. Alors c'est vrai qu'étant née à Dakar, une mère naturelle française, un père juif d'Algérie, ça faisait trop, quoi. C'était...
ouais.
Mais bon, en même temps, c'est la vérité, je veux dire, c'est, je suis ça.
I E comme être ou ne pas être.
Être ou ne pas être, bon, vietnamienne. Parler ou ne pas parler le vietnamien. Vous en êtes où avec la langue vietnamienne ?
Je ne parle pas vietnamien. Quand j'étais petite et que j'ai demandé à ma mère de m'apprendre, elle m'a dit que c'était trop difficile. Cela dit, c'est vrai que c'est difficile. C'est une langue à ton. Donc j'avais commencé à écrire quelques petites phrases j'avais noté dans un cahier. Et puis très vite, j'ai renoncé.
Mais quand vous l'entendez, cette langue ?
Ah, ça me fait bizarre. Parce que quand je vais dans un restaurant vietnamien, je vais très souvent dans les restaurants vietnamiens. J'ai envie qu'on me reconnaisse. Donc, je donne les noms des plats en vietnamien. Bon, alors, je prononce très mal. Et j'entends parler dans mon dos des personnes en vietnamien et tout. Et je me revois petite, quand ma mère recevait ses sœurs et qu'elle prenait le café et tout, et qu'elle parlait vietnamien. Je ne sais pas ce qu'elle disait, mais j'avais l'impression qu'il y avait des secrets, peut-être, des choses que je ne devais pas comprendre.
Part de vous qui était en dehors.
Oui, mais d'un seul coup, c'est terrible pour un enfant, parce que ma mère parlait français, ses sœurs aussi, mais d'un seul coup, elle se mettait, hop, elle passait au vietnamien. Je l'ai très mal vécu, parce que elle avait quelque chose que je voulais avoir et qu'elle ne me donnait pas.
Elle vous a donné quand même des yeux.
Oui.
Vous avez quelque chose d'eurasien dans les yeux.
Oui, quand on sait, après ça, on me dit « Ah oui, c'est vrai, ça se voit un petit peu, mais sinon, ça se voit pas beaucoup. »
Ça se voit pas assez pour
non,
vous.
Non, par rapport à mes frères, par exemple. Mes frères, ça se voit vraiment beaucoup plus.
Vous êtes jalouse.
Un peu, ouais.
Vous êtes née à Dakar, donc, on l'a dit. Mais en fait, bon, vous n'y êtes pas restée. Je crois que vous êtes partie à 3 mois. C'est à Bangui, en Centrafrique, que vous avez des souvenirs. Quels souvenirs ?
J'ai des souvenirs de marché. Parce que ma mère allait au marché. En fait, j'ai des souvenirs assez de foule, d'éléphantiasisme. Les gens qui ont des pieds très, très, très enflés. Et donc, comme moi, j'étais petite, j'étais à la hauteur des jambes et des pieds. Donc, je voyais que ça. Et je voyais aussi des tas de graines et puis d'insectes grillés. Et comme ma mère, en fait, il y a des fruits qu'elle a retrouvés en Afrique. Des fruits de Vietnam, comme les mangues, comme les patates douces, des choses comme ça et tout. Donc, elle allait à ce marché-là. Elle n'allait pas faire ses courses dans le marché des expatriés. Et donc, moi, j'étais petite, je la suivais et je voyais ça. Et ça, j'avais un peu peur quand même.
Alors, vous avez la photo d'un certain Albert Cohen dans votre bureau, oui. Josette Chiche-Portiche, oui. Et pas de Marguerite Duras, à laquelle on pourrait s'attendre.
Oui, oui, c'est vrai. Non, mais Albert Cohen, parce que j'adore Albert Cohen. C'est mon père qui m'a fait découvrir Albert Cohen.
Pour dire qu'une partie de votre vie est effectivement dans les livres, est-ce que vous pensez que, dans quelle mesure le fait que vous soyez justement si impliqué dans les livres, ça a un lien avec votre histoire familiale ?
Eh bien, déjà, le fait d'être traductrice, je suis dans deux langues.
Et d'avoir traduit, par exemple, Dans la forêt,
oui.
D'une certaine...
Jean Hegland.
Oui, et ça, c'est pas un texte anodin dans
absolument
votre parcours.
Pas. Absolument pas, c'est un roman dystopique, comme on dit maintenant, qui raconte comment deux sœurs survivent dans la forêt. Il n'y a plus rien à manger, c'est la fin du monde. Et donc, elles se débrouillent avec des baies, avec des glands. Et elles retrouvent, dans la maison, il y a un livre de textes d'Indiens d'Amérique. Et elles retrouvent des pratiques des Indiens d'Amérique. Et quand je le traduisais, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux dire sur la captivité de mes parents, sur comment, à un moment, Ils ont pensé qu'ils allaient faire leur vie dans la jungle, parce qu'on les avait totalement oubliés. Que ce soit les Français ou que ce soit les Vietnamiens, on ne savait pas très bien où ils étaient. Et c'est comme ça que des couples se sont formés, que mon frère est né.
Alors, il y a eu le silence vietnamien dans votre histoire, mais donc il y a eu ce silence séfarade aussi. Vous en êtes où avec la question de la judéité? La petite question.
Je suis très attirée par les littératures d'auteurs juifs, par la musique et tout. Mais en ce qui me concerne, c'est pareil, c'est exactement la même chose qu'avec les Vietnamiens. C'est que je suis rejetée aussi par ma famille juive parce que je ne suis pas juive. On me ferme une porte. À un moment, j'avance parce que je suis attirée par leur histoire. Mais à un moment, il y a une porte qui se ferme. Et c'est assez pénible.
Est-ce que vous l'ouvririez en écrivant là aussi?
Peut-être, oui, peut-être.
C'est quoi votre regard sur le métissage, Josette Chiche-Portiche?
Le métissage, bah d'abord, je trouve que ça fait de très beaux enfants. Et alors maintenant, c'est différent. Je crois que c'est différent parce qu'il y a tellement de métissage. Il y a tellement de... Voilà, les gens, et c'est très bien, je suis tout à fait pour. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, je trouvais ça assez lourd à porter. Oui, moi, j'aurais préféré avoir un bout de terre en France et dans un même petit village. Parce que quand j'étais môme, j'ai quand même souffert d'un certain racisme. Mon nom, les gens se demandaient c'est quoi ce nom. Ma mère ne venait jamais nous chercher à l'école. Moi, je me souviens, mon premier amoureux m'avait dit « Écoute, mes parents, ils trouvent que tu n'es pas très française. » Et là, c'est un choc quand même. Donc, aujourd'hui, c'est différent. Quand je raconte ça, les gens me disent « Mais enfin, c'est n'importe quoi. » Mais parce qu'il y a beaucoup de métissage. Mais quand j'étais môme, non.
Cette histoire de vos parents, donc, elle a en tout cas pesé très très fort sur votre vie, sur votre construction. Et il y a dans ce cercle intime, profond en vous, il y a un personnage essentiel pour vous-même. Moi, j'ai lu votre roman, donc cette comptine me rappelle quelque chose. Est-ce qu'elle doit vous rappeler aussi quelque chose à vous?
En fait, ce qui se passe, c'est que Simon, mon personnage Simon, avant de s'appeler Simon, il s'appelait Jacques.
Et comme frère Jacques.
Voilà. Et du coup, non, parce qu'en fait, je n'avais pas du tout pensé à frère Jacques. Mais quand est arrivée la scène où Nanou doit faire signe à Simon.
Alors Nanou, c'est la petite nièce de votre mère. Elle a 4 ans.
C'est la nièce de ma mère, oui.
Elle a 4 ans, elle est en captivité aussi. Et c'est elle qui apporte les petits messages à ce qui va devenir votre père.
Voilà, et elle a existé aussi, c'était ma cousine. Mais donc quand Nanou cherche à attirer l'attention de Simon...
Pour lui remettre un petit message de Madeleine.
Et à l'époque, Simon s'appelait Jacques, j'ai pensé... Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut peut-être chanter une petite comptine qu'on lui a apprise. Et je me suis dit, oh, c'est génial! Elle va chanter Frère Jacques et ça tombe bien, il s'appelle Jacques. Bon, après, il s'est appelé Simon.
Ouais. Mais cette nanou, c'est pour dire que cette nanou a été essentielle dans votre vie.
Ah, tout à fait, oui. Elle est sortie de captivité, elle avait 10 ans. Sa mère était morte. Sa mère était morte en couche. Son père était resté au Vietnam. Son père était opioman, donc il est resté au Vietnam. Et donc, elle est arrivée en France. Et comme on ne savait pas quoi faire d'elle, elle a été confiée à une de mes tantes, une sœur aînée de ma mère, qui habitait en Charente-Maritime, avec un Charentais. Et là, elle s'est retrouvée, une petite fille vietnamienne, en Charente-Maritime, en 1953. Donc, ça a été, j'imagine, le gros choc de sa vie. Mais elle s'est... C'était quelqu'un d'extraordinaire, elle s'est vraiment bien débrouillée et tout, et c'est devenue une femme qui a énormément compté dans ma vie, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a sortie un peu de ma vie en banlieue où je m'ennuyais un peu.
Elle vous a ramené un petit peu ce Vietnam qui était insaisissable?
Oui et non. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand le voyage en 1994 devait se faire, évidemment que c'est elle qui devait m'accompagner, on devait y aller ensemble. Donc on avait pris les billets pour y aller, et au dernier moment, elle m'a lâchée. Au dernier moment, je crois qu'elle n'a pas pu. Elle avait trop peur de retourner au Vietnam. Et c'est pour ça que mon mari m'a accompagnée, en fait.
Est-ce qu'elle a lu votre roman?
Non, elle est décédée, malheureusement.
Il y a des rendez-vous manqués, comme
oui,
ça, hein?
Tout à fait, oui.
À lire aux éditions Jean-Claude Lattès, 6 ans et 200 jours de Josette Chiche-Portiche. Merci à vous.
Merci.
Chère Josette.
Merci beaucoup.
Pas trop douloureux?
Non, ça va.
Ça va mieux?
Oui, ça va mieux.
Ça va mieux. On va se quitter avec un petit Santana, tiens,
ouais,
que vous
bien.
Aimez bien.
Oui, tout à fait.
Pour
Respirez.
Vous avez été cette adolescente qui dansait slow.
Tout à fait, avec mon père.
Vous dansiez le slow avec votre père?
Oui, parce qu'il adorait danser. Ça, c'est pas enregistré, si?
Si, si. Ensuite. Bonjour.
Parce qu'il adorait danser et ma mère n'aimait pas danser. Donc, et moi, j'adorais danser avec lui.
Qui passe par là, en sol majeur, émission à réécouter en podcast sur votre application Pure Radio. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine pour Bullet avec un certain Guy Delisle. À la semaine prochaine.